Bonsoir, je suis très heureux de vous rencontrer. Shalom. Vous allez devoir m'excuser, étant donné que ça fait pas mal d'années que ma langue naturelle n'est plus le français, mais l'hébreu. Je dois donc faire certainement des erreurs, je dois donc faire également des efforts pour communiquer avec vous, mais enfin je pense que vous serez assez clément, étant donné que ce dont nous allons parler représente une certaine importance. Voilà, je pense que, en fait, ma conférence est tout à fait inutile pour une raison très simple, c'est que Léo Guez a tout dit. Et donc, si je peux me permettre, on peut partir, mais puisque vous êtes déjà là, on va quand même remplir quelques minutes, ou un peu plus même. Bon, ce dont on voudrait parler aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aurait, il y a, vous le savez, dans la tradition d'Israël, dans la tradition biblique et talmudique, un message qui dépasse le judaïsme proprement dit, le peuple juif proprement dit, et la réponse est qu'il y en a un. Il y a traditionnellement, depuis très longtemps, ça remonte effectivement bien avant Babel, mais il y a, c'est bien comme ça quand je suis assis là, ça vous va, vous voyez, vous m'entendez? Très bien. Ah, petite remarque aussi technique, si quelque chose n'est pas clair pendant le cours de mes paroles, alors, intervenez immédiatement pour dire que ce n'est pas clair. Parce que ma méthode, en général, est de compliquer les choses. Plus on avance, plus c'est compliqué. Donc, il n'y a aucun espoir que la suite du discours éclaircira ce qui a été dit au début. Donc, si quelque chose n'est pas clair dès le début, il faut le dire. Après, vous êtes perdu. Je ne dirais pas qu'il y a une interrogation à la fin, mais... bon. Et donc... il y a effectivement, dans la tradition d'Israël, cette idée qu'il y a un message universel, contrairement, disons, à l'analyse, par exemple, de Bergson, qui considérait que le christianisme dépassait le judaïsme, puisque le judaïsme ne parlait que d'un Dieu intéressé que par son peuple, alors que le christianisme était destiné à l'humanité. En fait, c'était la preuve de l'ignorance de Bergson en matière de judaïsme. Et... il est intéressant de se demander pourquoi est-ce que pendant si longtemps, justement, cette tradition bien connue au sein de la maison d'études, au sein de la yeshiva, n'était pas diffusée dans le grand nombre. Et la réponse est très simple, c'est que la plateforme à partir de laquelle cet enseignement, cette parole peut être diffusée dans l'humanité tout entière, cette plateforme, c'est l'état des Hébreux. Or, cet état a disparu, a été détruit il y a près de 2000 ans. Et donc, nous étions, par la force des événements, repliés sur nous-mêmes. Mais jamais nous n'avons perdu l'espoir de rediffuser notre mission abrahamique. Ça a toujours été un sujet central de nos prières, journalières, comme celle de Rosh Hashanah et autres. Et... donc, ce dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, c'est de la nature de ce message, qu'est-ce qu'il veut dire. Et il me semble très important que l'élaboration des modalités éventuellement pratiques de ce genre de message se fasse en collaboration avec des ressortissants des nations. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis un peu promené en Europe ces derniers jours. C'était pour rencontrer justement des ressortissants des nations intéressés par ce que la Torah aurait à leur dire. Évidemment, il y aura, je suis persuadé que, étant donné que les choses en sont tout à fait embryonnaires, que de nombreuses maladresses vont être faites, qu'il y aura des erreurs, peut-être même des catastrophes. Mais on ne peut pas avancer si on ne prend pas de risques. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? Et là, je voudrais reprendre l'arrière-plan noachide dont déjà Léo Guez a parlé tout à l'heure. Vous connaissez la mission d'Abraham, certainement. La mission d'Abraham, telle qu'elle apparaît dans le texte de la Torah, se divise, si vous voulez, en deux parties inégales de sa vie. La Bible nous parle d'Abraham avant l'âge de 75 ans et après l'âge de 75 ans. Bon, 75 ans, c'est un âge assez vénérable, même pour l'époque antique. Et nous découvrons dans le personnage d'Abraham une période antérieure à la révélation et une autre postérieure à cette même révélation. De quoi s'agit-il ? Selon quelques allusions du texte, Abraham était occupé, pendant la première partie de sa vie, à diffuser le monothéisme. L'idée d'un peuple ne lui traversait pas la tête. On pourrait même dire, à la limite, que non seulement il n'y pensait pas, mais qu'il pouvait voir en cela un obstacle à l'universalité de son message. Effectivement, la Torah nous parle de « Hanefesh asher asu b'Haran », les âmes qu'Abraham et Sarah avaient formées à Haran, et selon la tradition des Midrashim, il s'agirait de dizaines de milliers d'adeptes de la foi d'Abraham, le monothéisme. Le monothéisme étant censé sanctifier la vie des individus. Si l'on avait interrogé Abraham à ce moment-là de sa vie, quel était le but de son existence, il aurait dit « Mon but est de diffuser le monothéisme à tous les individus sur Terre ». C'est ça, on pourrait dire, le public destinataire de la mission d'Abraham. Et, vous imaginez donc Abraham, grand patriarche, parlant devant tout le monde d'un Dieu qui ne lui a jamais parlé. Et dans l'intériorité de son cœur, il y a un espoir qui se développe, qui est « j'aimerais bien qu'un jour, ce Dieu dont je parle, me parle ». Un beau jour, à l'âge de 75 ans, ce Dieu lui parle et lui dit « abandonne tout ce que tu as fait ». Lech lecha, va-t'en. Et tu dois abandonner tout le monde, va-t'en tout seul, du pays où tu es, de la maison de ton père, de tes amis. Tu vas tout quitter pour faire quelque chose d'autre. Et c'est quoi ce quelque chose d'autre ? Eh bien, il faut que tu ailles vers le pays que je t'indiquerai. Et là-bas, tu vas fonder, Ve'aisra les Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple. Le mot Goy signifiant une nation. C'est-à-dire, Abraham n'apparaît pas comme un fondateur de religion, mais au contraire, comme celui qui a abandonné l'idée de fonder une religion pour fonder une nation. C'est comme si Dieu lui avait dit, laisse tomber le religieux, pourrait-on dire l'individualité spirituelle, et maintenant tu vas faire du politique. Nous allons passer à la politique. La politique étant le fonctionnement des entités collectives. Vous imaginez ce que ça a pu faire à Abraham. Je suppose que c'était pour lui comme un coup de tonnerre. Cette idée qu'il allait abandonner ses projets religieux pour s'engager dans une voie probablement dangereuse. Le politique, vous savez, c'est toujours un peu sale. Et puis le politique, ça ne peut pas toujours marcher. Alors, est-ce que, effectivement, c'est pas trop risqué, ce grand rabbin ?
Ah oui. Il y a juste un petit peu de l'art pour reprendre. Je l'avais dit qu'il était grand,
Au rabbin. On a commencé,
Il fallait.
Mais de toute façon, comme vous savez tout ce que je dis.
Le grand rabbin David de Shoshana, donc le grand rabbin régional, donc de Nice et région.
Bonsoir.
Il nous fait l'honneur de participer à cette réunion. Oui.
On continue. Donc, où est-ce qu'on en était ? Oui, donc, ce passage donc, du religieux au politique, de l'individualité au collectif, est un passage assez dangereux, et on pourrait faire une analyse poussée des textes, que je ne ferai pas avec vous, parce que ça demanderait une étude en soi, de voir les réticences et les résistances qu'a eu Abraham à cette idée-là. Ce sont des résistances profondément juives, d'ailleurs. Par exemple, nous avons un juif qui a continué à résister beaucoup plus tard, lorsqu'il a affirmé que ce qui appartenait aux politiques ne pouvait pas être sanctifié. Vous avez entendu parler d'un juif qui a dit ça ? Il disait ça, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est-à-dire, le fondateur du christianisme a considéré que le politique n'était pas sanctifiable. Et en cela, il s'est écarté de la tradition d'Israël qui remontait à Abraham, qui considérait au contraire qu'il fallait fonder une nation, et que c'est par le biais de cette nation que l'on pourrait réaliser finalement la réussite de l'humanité. Il y a une raison à cela, on peut dire rationnellement, ça se comprend. Le politique étant le levier essentiel des forces de l'humanité. C'est comme ça que ça marche. Je me rappelle, dans mon enfance, j'avais lu un livre en français du nom des Misérables, d'un certain Victor Hugo, je crois, c'est ça, oui. Et j'avais très, très frappé de la thèse centrale du livre. Bon, c'est un très beau livre, mais il y a une thèse extrêmement pessimiste dans ce livre. C'est que le monde est cruel, le monde est violent, et le monde amène le malheur. Mais on peut, par un peu de charité chrétienne, un peu de générosité, adoucir la douleur de ce monde. C'est comme ça que j'ai analysé le livre. Je suis prêt à admettre d'autres analyses. Mais ce que ça voulait dire, de mon point de vue, c'est qu'il y avait cette idée que la société, donc le politique, n'était pas sanctifiable, mais l'individu pouvait transformer le monde, tandis que la thèse fondamentale d'Israël, celle qui a été révélée à Abraham, c'est qu'il faut d'abord passer par une identité nationale, Goy Gadol, une grande nation. Oui, très bien, mais alors dans ce cas-là, à quoi est-ce qu'on arrive? Alors, vous connaissez la suite des versets. « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama »« Par toi seront bénies toutes les... » Les quoi ? Les nations. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire, n'est-ce pas ?« Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Problème de traduction. Si vous voyez le texte en hébreu, c'est « Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est-à-dire, alors que Abraham doit fonder une nation, ce qu'il est censé bénir, ce à quoi il est amené à donner une bénédiction, ce sont des familles, non pas des nations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut revenir un peu à l'antériorité du texte. Je voudrais vous lire ici un petit verset de la Bible dans la paracha de Noar. Vous allez devoir attendre que je trouve le verset. Bon, vous savez, il y a des généalogies. Dans le 10e chapitre de la Bible, de la Genèse, vous avez Elle Beneshem, le Mishpechotam, l'Ilshonotam, Be'arzotam, l'Egoyehem. Traduction. Voici la liste des enfants de Shem. Il s'agit de la lignée sémitique. Les Mishpechotam, l'Ilshonotam, selon leur famille et leur langage. Et puis après, le verset se complique. Be'arzotam, l'Egoyehem, dans leur pays, selon leur nation. D'abord, le texte est un peu lourd. Enfin, je reprends. Selon leur famille et leur langage, dans leur pays, selon leur nation. Ça veut dire que les groupes humains, au début, n'étaient pas des nations. Les groupements humains étaient des familles. Et puis, quelque chose s'est passé, les familles sont devenues des nations. Parce que le critère définissant les groupes a changé. Au début, les groupements humains étaient considérés comme des familles de langage. Le langage, ici, le mot « lashon » ne veut pas dire la langue que l'on parle, mais il veut dire la culture que l'on porte. En hébreu, vous avez deux termes pour dire un langage. Vous avez « safa », qui vient du mot « lèvre », c'est ce qui est extérieur, et vous avez le mot « lashon », qui veut dire la langue, ce qui est intérieur. Donc, quand on parle de « leshonot », on parle ici des cultures. Or, il était un moment où les groupements humains étaient définis par les cultures. Et donc, les groupements étaient des familles. Les relations naturelles entre familles, ce sont des relations cordiales. On se marie entre familles, on s'aime bien, on mange ensemble le Shabbat, si on fait le repas du Shabbat. Enfin, bref, c'est la fraternité qui est supposée, qui est censée régir les relations entre familles. Et puis, à un moment, la définition des groupements humains est passée au territorial. Be'artzotam legoyehem. Lorsque ça a été défini par le territoire, ont été fondées les nations. Or, la relation naturelle entre les nations, c'est la guerre. Le prophète Isaïe dit « Viendra un temps où une nation ne fera pas la guerre à une autre nation. » C'est une innovation. Comment ? Ce sont des nations, ils ne se font pas la guerre ? C'est-à-dire que dans l'idée de nation, on a eu la naissance de l'étranger. L'étranger est exclu de l'humanité. Donc, si Abraham doit régler certains problèmes, un des problèmes qu'il doit régler, c'est celui-là. Il doit aider les nations à redevenir des familles. Venivrechu becha kol mishpechot. Par toi seront bénies les familles de la terre. Mais alors, il y a quelque chose de paradoxal. C'est clair ce que je vous dis là? Parce que là, je vais compliquer les choses. Oui, bon, c'est très bien. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que pour réussir cette entreprise, Abraham est amené à fonder une nation et pas une famille. Ve'esra l'egoy gadol. Je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, tu vas ajouter ton grain de sel au nationalisme. Alors, ça ne tient pas debout. Mais ça veut dire une chose. Ça voudrait dire peut-être, d'après le texte, que le seul nationalisme moralement légitime serait celui d'Abraham. Parce qu'il est le seul nationalisme qui n'est pas un égoïsme élargi, mais au contraire, qui a pour point de départ la réunification de l'humanité. Et donc on peut dire, il est légitime d'être nationaliste hébreu, parce que la finalité, justement, est universelle. Vous savez qu'il y a ici, ça se relie à une problématique que l'on trouve dans l'humanité moderne. C'est le drame de ce qu'on appelle le clivage gauche-droite. Sans rentrer dans la politique, mais je voudrais caricaturiser, si vous voulez bien. Je vais dire des choses extrêmement caricaturales et schématiques, je le sais bien, mais c'est uniquement pour aider la pensée à progresser. Je sais bien que dans la réalité, il y a des nuances à ce que je vais dire. Il y a dans la il y a deux options possibles. La première est d'aimer sa patrie, son peuple, sa terre. Si je pousse ça à l'extrême, ça devient le refus des autres. C'est-à-dire, j'aime mon peuple et donc je déteste les autres. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est un paroxysme de l'amour de soi. Et l'autre possibilité, c'est, je suis cosmopolite. Je suis citoyen du monde. J'aime tous les hommes. L'extrême de ça, et je déteste ma patrie. C'est-à-dire, je ne suis pas capable d'avoir des racines, parce que j'ai le sentiment qu'avoir des racines me coupe du reste de l'humanité. Je sais bien que dans la réalité, c'est extrêmement différent. Toute personne normale, disons, sur Terre, a à la fois des attaches nationales et des attaches universelles. Mais il y a quand même une tension intérieure qui fait qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut choisir, et c'est un conflit difficilement soluble, qui a engendré, si vous voulez, des mouvements de gauche et de droite, pour pousser ça à la caricature. On pourrait dire que une manière de régler ce problème se trouve chez les Hébreux. C'est-à-dire, Abraham va être fondateur d'une nation à portée universelle dès le départ. Et donc, de ce point de vue-là, ce problème est réglé chez l'Hébreu. On pourrait dire, plus l'hébreu est fidèle à son identité nationale, plus il est universel. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons créer un modèle pour l'exportation. C'est-à-dire, ce que nous faisons, nous autres Israéliens aujourd'hui, redevenant hébreux sur notre terre, nous faisons parfois consciemment, parfois inconsciemment, ce travail-là. Aidé par la Providence, évidemment, à rétablir une société dans laquelle c'est l'unité des valeurs serait possible, et alors, ça serait vendu comme modèle pour l'exportation, et acheté par les goyim, hein, par les nations. Et donc, si vous voulez, le projet au départ est un peu loin de ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, dans les groupes dits noachistes. Vous avez certainement entendu parler de ça, qu'il y a aujourd'hui une certaine diffusion de cet enseignement traditionnel de la halakha, qui est de la loi juive, qui est qu'il y aurait 7 commandements des fils de Noé, qui représenterait d'une certaine manière la morale universelle, etc., etc. Mais, si vous voulez, ce projet, qui aujourd'hui commence à être bien vendu...
Pas très connu.
On va en parler quand même, d'accord. Mais enfin, je veux dire que ce projet est un projet dérivé du projet originel. C'est-à-dire, le projet d'Israël, en fait, devrait s'adresser au gouvernement des entités politiques, aux chefs des nations. Et donc, s'il y aurait véritablement un discours à tenir, ça serait non pas entre des rabbins et des individus parmi les nations, mais ça serait entre le gouvernement israélien et des gouvernements sur le globe. Ça serait comme ça que, si vous voulez, la mission d'Abraham serait véritablement réalisée. Mais nous en sommes très loin, mais il est important de savoir que c'est ça qui nous gratte la tête par derrière un peu parfois. Et c'est une des modalités de ce qu'on appelle en grand et de manière un peu déformée le messianisme. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai toujours des hésitations à employer des termes qui ont toujours des connotations pas très claires. Que veut dire le terme de messianisme? Que veut dire humanisme, etc.? C'est pas toujours très clair. Il vaut mieux parfois rentrer dans les détails. Ce qui est proposé aujourd'hui par certains groupes de juifs, c'est ce qu'on appelle le noachisme, qui serait une dérivée de ce projet. Le noachisme consiste en cette idée qu'il y aurait dans la tradition d'Israël deux religions. C'est assez surprenant, mais enfin, si vous voulez, une tradition prophétique qui encouragerait deux religions, une pour un peuple prêtre et une pour l'humanité. Cette tradition s'appelle Torat Bene Noar, la loi des fils de Noé, qui aujourd'hui commence à être débattue. Par exemple, je vous ai amené simplement pour que vous sachiez que ça existe, un livre que m'a présenté un rabbin d'origine américaine, qui s'appelle Le guide pour le Noachid, par exemple. C'est un recueil de lois, c'est en anglais, destiné à ceux qui s'intéresseraient à ces choses-là. Mais de quoi s'agit-il? Bon, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les sept commandements des fils de Noé. Alors, les sept commandements des fils de Noé, ce sont uniquement des prohibitions. C'est uniquement des choses négatives. C'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Ah bon, c'est quand même assez bizarre qu'une parole prophétique n'ait rien à dire de positif. Mais justement, ces sept prohibitions sont là justement pour permettre l'élaboration d'un contenu positif qui correspondrait à chaque nation, pour chaque nation, à ses aspirations particulières. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est pour éviter ce qu'on appelle l'impérialisme culturel. L'impérialisme culturel, par exemple, la version actuelle la plus diffusée, c'est l'impérialisme culturel américain, qui considère que tout homme sur la Terre est un Américain qui s'ignore. C'est-à-dire, certains le savent déjà qu'ils le sont, d'autres ne le savent pas encore, mais en buvant une quantité suffisante de Coca-Cola et en mangeant une quantité importante d'hamburger, eh bien finalement, chacun va découvrir qu'en fait, il est américain, démocrate et tout le reste. Et il y a ici un petit problème, c'est la négation de l'originalité de chaque groupe humain. Donc de ce point de vue-là, l'idée de peuple élu qu'on trouve chez les Juifs est très importante parce qu'elle permet justement de ne pas imposer son identité au reste de l'humanité, mais de proposer à chaque groupe humain des cadres qui vont lui permettre de s'épanouir de la manière, disons ultime, préférable, si vous voulez, en réparant des erreurs qui ont été faites pendant les quelques derniers milliers d'années d'histoire. Et donc, c'est ça qu'on appelle les lois Noachides. Alors, vous les connaissez certainement ou ils ne les connaissent pas? Non? Ils ne connaissent pas. Bon, ben, c'est tout simple. Hein. C'est facile. C'est l'interdiction de l'idolâtrie, du vol, de la débauche, du blasphème, de la consommation d'animaux vivants, de le meurtre, on l'a dit. Ah non, on n'a pas dit le meurtre. Ah non, bah, le meurtre, oui. Et la septième, c'est presque positif, c'est avoir des tribunaux pour juger. C'est-à-dire que la société ait des moyens d'imposer ses lois. Bon, alors ça, si vous voulez, c'est presque ce qu'on appelle de la morale universelle. Avec une petite différence, c'est que dans la loi Noachide, c'est considéré comme ce qu'on appelle des mitzvot, des commandements. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence du point de vue de la tradition prophétique entre le fait de ne pas tuer pour des raisons morales ou bien de ne pas tuer parce que Dieu a dit « tu ne tueras point ». Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, il est évident que le premier substrat moral n'est pas remplacé par le commandement. Le commandement s'ajoute. Mais il y a ici une petite différence, c'est que si je ne tue pas pour des raisons morales, ce que j'acquiers, c'est une plénitude de mon identité humaine. C'est-à-dire, je reste entièrement homme. Tandis que si j'accomplis ici un commandement, je suis lié ipso facto à l'infini. J'acquiers l'adhésion au Créateur. Et c'est là tout à fait différent. C'est-à-dire, ça crée un monde d'ouverture à l'infini. Et c'est pour ça qu'il est important que les lois noachides, qui sont de manière générale respectées souvent par beaucoup de ressortissants des nations, soient considérées également comme des commandements. Je voudrais raconter à ce propos un entretien que j'ai eu à Jérusalem avec un non-juif d'origine française de Bourgogne. Hein, France profonde. Hein, c'est ça, c'est vrai, hein, il y a ce qu'on appelle la France profonde. Un homme très cultivé qui me dit « Voilà, monsieur le rabbin, je suis d'origine chrétienne, mais je n'adhère plus. Je m'intéresse beaucoup à la mystique orientale, mais je ne suis pas moi-même un mystique. J'enseigne la sagesse extrême orientale, mais je ne suis pas fasciné. Et Je voulais vous dire, monsieur le rabbin, que je crois en un seul Dieu et que je sais que sa parole passe par le peuple d'Israël. Et donc, je voudrais que vous me disiez ce que je dois faire pour m'attacher à Dieu. Mais, a-t-il tout de suite rajouté, je vous demande de ne pas me parler des lois noachides, parce que ça, je fais déjà. Bon. À part ça, j'ai appris que sa femme était effrayée par son cheminement, sa femme juive, qui ne voulait pas entendre parler de ces choses-là. Et, ah oui, bah, faut la comprendre. Oui. En tout cas, alors, je lui ai dit, bon, au début, j'étais un peu naïf, je lui ai dit, ben, vous savez, vous n'avez qu'à prendre une poussette de supermarché, vous promenez parmi les rayons du judaïsme, vous prenez ce que vous voulez. Hein? Ben, vous prenez tel commandement, etc. Parce que les 7 commandements, c'est un minimum, c'est pas un maximum. C'est la condition d'entrée, c'est la condition d'accès au discours avec le judaïsme. Si on n'accepte pas les 7 lois noachides, alors on est encore en dehors du dialogue. Une fois les 7 lois noachides acceptées, alors on peut parler d'un dialogue. Et donc on peut en rajouter. Alors je lui dis, bon, c'est très simple, vous n'avez qu'à prendre ce qui vous intéresse en judaïsme. Mais non, mais pas du tout, me dit-il. Étant donné que ça, c'est une parole de Dieu, c'est donc hétéronome. Ça doit donc venir de l'extérieur, donc c'est à vous de me dire ce que je dois faire. Bon, j'étais un peu embêté. Finalement, après, disons, enquête sur son cheminement spirituel particulier, j'ai pu lui donner quelques instructions qui correspondaient à son équation personnelle et qui sont certainement bonnes pour lui, mais peut-être pas pour une partie du public ici présent. En tout cas, si vous voulez, c'est ça les 7 lois noachides. Les 7 lois noachides sont un substrat minimum qui permet par la suite des modalités différentes de rapprochement du judaïsme jusqu'à même l'accomplissement de presque tous les 613 commandements du judaïsme. Mais les 613 commandements du judaïsme sont au nombre de 613 parce qu'ils correspondent justement à toutes les manières d'être peuple prêtre. Mais souvent, nous sommes témoins de difficultés très importantes que, en général, les rabbins mettent sur le chemin de personnes qui veulent se rapprocher du judaïsme, par exemple ce qu'on appelle les conversions. Les conversions au judaïsme, en général, deviennent très difficiles, surtout en dehors d'Israël. Bon, il y a des tas de raisons à cela, qu'on pourrait analyser, mais je n'analyserai pas maintenant. Et souvent, je rencontre des non-juifs qui sont découragés. Voilà, j'ai voulu me convertir au judaïsme, mais les rabbins ont été insupportables, ils ne m'ont pas laissé, etc. Parfois c'est justifié, parfois c'est injustifié, je ne juge pas. Or, très souvent, comme une fois me l'a dit une belle formule que j'ai entendue de Léon Gaz, c'est il vaut mieux être un bon goy qu'un mauvais juif. Oui. Mais si vous voulez, donc tout ce programme de ce qu'on appelle les lois noachides, correspondrait à une dérivée donc du projet originel. Cette dérivée est possible, elle existe. Nous sommes au courant du fait qu'il y a de nombreuses personnes parmi les nations qui sont intéressées à savoir ce que les Juifs ont à leur dire. C'est très certainement lié aux événements du XXe siècle. L'événement du retour d'Israël sur sa terre n'est pas une petite chose. Il y a eu 2 événements extrêmement importants qui se sont produits au XXe siècle pour le peuple juif, qui ont eu un retentissement universel. Tout d'abord, la fondation de l'État d'Israël. Et le deuxième événement, qui a beaucoup plus, à mon avis, de retentissement, peut-être moins important en vérité, mais sur le plan médiatique plus important, la guerre des 6 jours est donc le retour du peuple juif au paysage de la Bible. Et je suis persuadé qu'il y a eu ici un grand chamboulement parce que le monde, disons, le monde originellement chrétien, même quand il n'est plus toujours dans l'orthodoxie de l'adhésion à sa foi originelle, continue à conserve des réactions instinctives d'ordre de la théologie chrétienne. Et le retour d'Israël à son indépendance pose un point d'interrogation, sans aucun doute, à des fondements de cette théologie. Et ce n'est pas, disons, aux rabbins de proposer des solutions, mais il y a, sans aucun doute, il y a eu un questionnement très fort dans le monde, soit chrétien, soit d'origine chrétienne, par rapport à ce retour. On peut dire qu'il s'est créé une situation assez paradoxale. les juifs, sans trop faire attention à cela, ont en fait bousculé les habitudes de pensée du monde occidental. C'est-à-dire qu'il s'est produit en plein XXe siècle un événement biblique. Et ça, on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire, on savait qu'il y avait une histoire biblique. Elle appartient à l'Antiquité. Et puis après, on est entré dans une autre histoire, on est arrivé à la modernité. Et en pleine modernité se produit un événement de nature réellement biblique, et ça pose un problème. Parce que ça laisse se demander, il y a au moins deux questions qui s'élèvent à ce propos. La première, c'est, si un événement biblique peut se produire en pleine modernité, est-ce que cela ne voudrait pas dire que la lecture de l'histoire par la Bible est la bonne ? Ça, c'est la première question qui se pose. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus douloureux, est-ce que ça ne voudrait pas dire que la lecture qu'ont les Juifs de la Bible est la bonne manière de la lire ? C'est ça qui se pose. Et les Juifs, un peu inconscients, ne se rendent pas compte de l'ampleur de cette onde de choc. Et puis, les années passent, des décennies passent, et le monde occidental, et par principe le monde islamique, se disent, mais enfin, vous êtes revenus, vous avez fait beaucoup de chamboulements, ça a beaucoup bouleversé nos habitudes de pensée, et puis vous n'avez rien à nous dire. Alors pourquoi vous avez fait tellement de désordre ? C'est un peu la question dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez gêné tout le monde, tout ça pour faire une Suisse au Proche-Orient ? Et donc on pourrait dire que certaines des réactions même d'animosité, je ne viens pas justifier l'antisionisme ou l'anti-israélisme ou l'anti-judaïsme ou l'antisémitisme. Enfin, on pourrait dire dans le subconscient collectif des nations, il y aurait un mélange de frustration. Comment ? On attendait de vous quelque chose et vous ne le dites pas. On peut dire que c'est une des motivations qui m'ont poussé personnellement à m'intéresser à ces choses-là, à voir s'il ne serait pas le moment de proposer quelque chose. Je voudrais peut-être faire un peu peur. Vous voulez que je vous fasse peur ? Non, si vous avez des personnes sensibles, vous pouvez sortir pour quelques minutes. Nous sommes aujourd'hui dans une conjoncture géopolitique internationale extrêmement dangereuse. Nous sommes sur une poudrière. Nous sommes dans un conflit virtuel entre deux grandes entités, entre le monde islamique et le monde occidental. Ce n'est peut-être pas une troisième guerre mondiale, mais ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui un conflit violent, parfois un peu, disons, comprimé, mais il existe conflit. Et ce conflit a son origine non pas uniquement dans des intérêts économiques ou de puissance, il y a des facteurs spirituels à ce conflit. De manière extrêmement étonnante, le cœur de ce conflit, c'est justement la terre d'Israël au moment où les Juifs y sont. Alors, on ne peut pas... Si on voit les choses un peu de haut, on ne peut pas dire qu'il y a ici un hasard. Il y aurait donc ici une mission. On pourrait dire qu'il y a aujourd'hui une rivalité autour du problème de l'hégémonie spirituelle du monde. C'est ça dont il est question. Et donc, le moment est venu que soit proposée une alternative spirituelle à ce qu'ont proposé jusqu'à présent l'islam et la chrétienté, sans, disons, faire de guerre de religion. Mais il y a effectivement une quête. Il y a un point qu'il faudrait bien mettre en évidence, et je pense que c'est très important de le comprendre. Ce qui est proposé par le peuple d'Israël n'est pas une sagesse. C'est une parole. On pourrait dire que s'il y a une originalité au message de la Bible, c'est le fait que, au-delà du fait que la Bible est écrite avec sagesse, vous n'avez qu'à lire la Bible, c'est extraordinaire de sagesse. Vous pouvez lire le Talmud, vous pouvez lire le Zohar, et vous voyez, c'est extraordinaire de sagesse. Mais une sagesse en vaut une autre. Il y a des spiritualités un peu partout dans le monde. Il y a aujourd'hui des fascinations par certaines spiritualités charlatanesques ou véritables. Donc, si vous voulez, si quelque chose de particulier doit être transmis par le peuple d'Israël, c'est justement un souffle prophétique, donc une parole. Cette idée que le Créateur du monde aurait une volonté à révéler à ses enfants. si vous voulez, le canal de cette révélation, en toute modestie, c'est nous autres, les Juifs. Mais c'est comme, nous ne sommes qu'un canal. Et ce canal transmet une parole. D'où l'importance de se mettre à l'écoute, et pas seulement à l'étude. L'étude suppose le contact avec des contenus donc intellectuels, de sagesse et autres, mais il y a beaucoup plus que cela, retrouver un contact rompu entre le Créateur et sa création depuis 2400 ans. Parce que, si vous voulez, le drame que nous vivons, nous tous, juifs et non-juifs, on pourrait dire même la nature, nous vivons ce drame d'être coupés de celui qui a créé le monde. Depuis 2400 ans, la communication a été coupée. Depuis que les derniers prophètes nous ont quittés. Et ça s'est passé il y a donc à peu près 2400 ans, avec l'irruption de l'hellénisme dans le monde, lorsque la philosophie s'est proposée comme remplaçante de la parole. Il y avait peut-être des bonnes raisons à cela, il y avait peut-être des déceptions, mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Alors, il ne s'agit pas évidemment de remettre en question les acquis de cette situation. À travers, justement, ce bouleversement de l'histoire, sont apparues donc des philosophies, des religions, qui ont fait des morales, qui ont fait progresser l'humanité comme elle a pu progresser, mais il y manquait quelque chose. Il y manquait la présence du Créateur. Et nous avons aujourd'hui, donc, nous avons ce privilège, nous vivons dans une époque privilégiée où ce retour devient possible. Et donc ça, si vous voulez, c'est le point de départ de ce que je voulais vous dire. Une petite remarque, vous n'avez qu'à lire dans le livre de Zèbre, pour clore ce premier volet de notre étude, vous pouvez consulter dans le livre de Zacharie, au chapitre 14. Le 14e chapitre de Zacharie est presque un des derniers messages prophétiques de l'histoire. Zacharie était l'avant-dernier des prophètes, le dernier étant Malachi, et vous avez Zacharie auparavant, juste un peu avant, dans le 14e, donc le dernier chapitre de son livre, qui, comme vous l'avez si bien deviné, comporte 14 chapitres, il est question là-bas des résultats du dernier conflit armé de l'histoire. Alors là-bas, il est question d'une énorme guerre. Vous savez que les prophéties de malheur, d'après la tradition juive, ne sont pas forcées de s'accomplir. C'est-à-dire, une prophétie de bonheur doit obligatoirement s'accomplir, mais une prophétie de malheur, c'est une option. D'accord ? On peut donc esquiver. Mais en tout cas, il est question de cette grande guerre de la fin des temps. Celle que le prophète Ézéchiel appelait Gog et Magog. Oui ? L'Armageddon, oui, c'est la manière dont ça a été formulé dans la tradition évangélique. Oui, c'est-à-dire, c'est une déformation... Oui, non, absolument, mais c'est une déformation de l'hébreu Har Megiddo, la montagne de Megiddo. Ça a donné en grec Armageddon, et donc c'est ça qui est connu en Occident. Quand vous dites à un juif Armageddon, il ne sait pas de quoi vous parlez. Oui. Le Gog et Magog, ça on connaît, c'est la démagogie, ça on connaît. Et donc, dans le... texte de Zacharie, qui lui d'ailleurs ne dit pas les termes ni de Armageddon ni de Gog et Magog, eh bien Zacharie nous parle de ce qui se passe après la guerre. Alors bon, évidemment la guerre est victorieuse pour Israël, c'est normal puisque c'est un prophète hébraïque qui l'écrit, et là-bas il est question d'un culte universel rendu par les nations à Jérusalem, et là-bas les nations sont désignées comme par le terme Asher Yishaer Mikol Agoyim, ce qui restera des nations. Et puis brusquement, le prophète change de terminologie et les appelle Mishpechot Adama, les familles de la terre. Et là-bas, il est question par exemple de la famille d'Égypte, Mishpachat Mitzrayim. C'est-à-dire que, ça dit bien ce qu'on a dit tout à l'heure, que le projet d'Abraham était de rétablir cette relation de Mishpachot, de famille, à la place de la relation de nation à nation. D'accord ? Je pense que c'était le premier point, le premier volet de ce que nous voulions étudier ensemble. Et est-ce que vous avez jusqu'à présent des remarques ou des questions avant qu'on continue ? Parce qu'après, vous allez voir, on va rentrer dans les profondeurs des choses. Oui, allez-y, madame.
Ma seule question, Raph, c'était la différence entre les familles dont vous parliez au début de votre ce discours, et les tribus. Parce qu'il me semble que les familles sont venues avant les nations, etc., les tribus.
Absolument pas.
C'est la même notion exacte, en fait, c'est synonyme.
Non, pas du tout.
Non.
Vous dire quelque chose ? Ce qu'on appelle en hébreu shevatim, ou des tribus, ce sont des micronations. C'est-à-dire, c'est toujours dans l'idée de nation, mais une nation réduite. Par exemple, à l'époque où Israël était divisé en 12 tribus, il y a eu une époque, celle des juges, où chaque tribu vivait son identité comme une nation à part. Alors, il y avait cette idée que toutes les tribus appartiennent au même peuple, mais on pouvait faire la guerre entre tribus. D'accord ? Allez, c'est donc tout à fait différent. C'est pas l'idée de famille, c'est très différent. D'ailleurs, vous avez dans la Torah un verset qui dit « O mishpacha, o shevet » ou « famille » ou « tribu ». C'est dans le livre de Devarim, au chapitre 29. Voilà, au chapitre 29, si je me trompe. Vous me pardonnez si je me suis trompé ? D'accord. C'est 29, n'est-ce pas ? Ah oui, non, mais si.
Si vous permettez, comme nous avons la présence du grand rabbin d'El Shoshana, ce serait intéressant d'avoir aussi un écho local, puisqu'on a un écho d'Israël, donc un écho local de... un écho local de ce projet de diffusion de la Torah pour les enfants de Noé. Si tu veux nous dire quelque chose, David, sur ce sujet-là.
Je pense que je partage d'abord l'avis de tout le monde, c'était fascinant.
C'est pas fini. Non, c'était fascinant, vous faites allusion au fait qu'il faudrait que j'arrête. Non, pas du tout. Oui.
Peut-être juste une remarque, et peut-être aussi en même temps une question. Quand on rappelle les événements du XXe siècle concernant le peuple d'Israël, on a retenu les éléments peut-être positifs.
Oui.
Bon, il y a quand même la Shoah.
Oui,
évidemment. Donc voilà. Donc, je ne sais pas comment intégrer la Shoah dans l'explication que vous vouliez donner, si ce n'est peut-être de faire en sorte que, justement, ce message qu'on aurait pu porter à l'humanité, le faire taire. De faire taire définitivement.
Oui.
Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire ? Donc, peut-être que vous direz un petit mot tout à l'heure à ce propos.
Très intéressant, je voudrais une petite remarque. Oui. Vous savez que nous avons des textes très anciens qui nous parlent aussi bien du retour d'Israël sur sa terre que d'autres textes qui nous parlent également de l'éventualité de la catastrophe de la Shoah. Ces textes se trouvent aussi bien chez les prophètes que chez les kabbalistes et dans les midrashim, etc. Mais on ne peut pas être frappé par un élément très important. C'est que tous les textes qui parlent du retour à la terre sont explicites, tandis que tous les textes qui parlent de l'éventualité de la Shoah sont implicites, n'en parlent que par allusion. Une des raisons que j'ai apprises chez mes maîtres, entre autres chez le Rav Ashkenazi, c'est qu'il y a une alliance de Dieu pour le retour d'Israël sur sa terre. C'est une promesse, ça s'est promis juré, donc Dieu est bien obligé de tenir ses promesses. Tandis que l'éventualité de la Shoah n'a jamais fait l'objet d'une alliance. C'est une éventualité, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on aurait pu éviter la Shoah. Nous avons une fête, d'ailleurs, dans notre calendrier, qui célèbre une Shoah évitée. C'est la fête de Pourim. C'est-à-dire, nous avons eu l'exposition à une éventualité catastrophique du temps d'Assuérus, et puis on a réussi à l'éviter. Ça veut donc dire que ce n'est pas un projet intrinsèque, indispensable de l'histoire d'Israël. Ça, quand ça se produit, ça a un sens, et ça, ce sens, à être analysé théologiquement, même peut-être. Mais c'est un autre registre. Voyez-vous ? C'est comme ça que je vois les choses.
Très bien.
Bon. Juste
pour compléter peut-être ce point-là, ce que je trouve intéressant, c'est par rapport donc à la voix d'Israël, ce que le peuple d'Israël doit porter comme message, message universel, c'est le fait que l'on dise que l'exil, c'est-à-dire cette obligation d'Israël de quitter sa terre, sous la contrainte ou pas, fait partie aussi du projet divin, dans la mesure où on considère, et c'est là où je veux aussi vous entendre, ce qui est dit par rapport à la recherche des étincelles qui seraient parmi les nations, et l'une des fonctions de l'exil, c'est-à-dire la dispersion du peuple d'Israël dans les quatre coins du monde, c'est pour faire entendre cette voix et attirer, récupérer ces étincelles perdues. C'est-à-dire qu'on a quand même une fonction. Et là, peut-être, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a le retour d'une part, parce que peut-être que si la voix s'est élevée uniquement d'Israël, elle aurait pu atteindre les quatre coins de la terre, mais du fait que cette voix ne se soit pas élevée, donc il y a peut-être encore une raison au fait que il y a encore une présence d'Israël parmi les nations pour achever ce travail-là. Mmh.
Voilà. Vous voulez que j'en dise quelque chose?
Vous voulez pas?
Oui. Bon, c'est une remarque très importante. Sans trop rentrer dans des polémiques, parce qu'on pourrait en finir, tout simplement, l'exil a toujours été pensé par nos maîtres. Il fait partie d'un projet. On peut le comparer, si vous voulez prendre une des images ramenées par nos maîtres, c'est à des semailles. Quand vous semez des grains, alors ils sont perdus, mais après ils donnent une récolte. Et donc tout le problème de savoir, est-ce qu'on est au moment des semailles ou au moment de la récolte? Il est dramatique quand la récolte arrive de penser qu'on en est encore au semailles. Et c'est souvent ça, d'ailleurs, vous n'avez qu'à lire le texte de la Torah, toute la problématique de la faute des explorateurs. Les explorateurs ont voulu continuer le désert quand c'était le moment d'en sortir. Et on pourrait dire que, d'après mon analyse personnelle de ce que j'ai pu voir, de ce qui se passe au niveau du Noachisme dans le monde, parce que vous savez que je ne suis pas le premier à avoir pensé à ces choses-là, il y a aujourd'hui des groupes un peu partout dans le monde de Bene Noach. Et j'ai pu remarquer que, de manière générale, ça échoue. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas même quand c'est encouragé par des sommités rabbiniques, quelles qu'elles soient. Et la raison est très simple, à mon sens, c'est parce que pour que quelque chose marche, il faut savoir à quelle époque on vit. C'est-à-dire, à partir du moment où ce n'est pas, disons, israélo-centré, alors on risque de se tromper d'époque. Or, se tromper d'époque, se tromper sur la nature de l'époque dans laquelle on vit, ben, c'est se tromper sur beaucoup de choses. Je voudrais, par exemple, à ce propos, signaler un autre exemple qui est un peu en dehors de notre sujet. Une analyse qui a été faite par un des rabbins d'Espagne au XIe siècle, Rabbi Yehuda Alevi, dans son livre Le Kuzari, qui fait une analyse dans la quatrième partie du livre, qui est moins étudiée que la première, dans les yeshivot. Dans la quatrième partie de son livre, Rabbi Yehuda Alevi se demande mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y aurait à dire du christianisme et de l'islam? Alors, on pourrait s'attendre à une polémique théologique. On n'est pas d'accord avec la Trinité, on n'est pas d'accord avec le Coran, on n'est pas, etc. Or, j'étais très surpris, la première fois que j'ai lu ce texte, de voir que Rabbi Yehuda Alevi ne parlait pas de tout ça. Ce qu'il affirme, il dit, l'erreur du christianisme, de son point de vue, et de l'islam, de son point de vue, c'est que ni les chrétiens, ni les musulmans ne savent dans quelle direction prier. C'est ce qu'il dit. On pourrait s'attendre à quelque chose de beaucoup plus énorme. Mais non, non, ils ne connaissent pas la direction de la prière. Ça veut dire quoi? Si on ne comprend pas quelle est la géographie du spirituel, alors c'est qu'on s'est trompé de voie spirituelle. Enfin, ça c'est une petite remarque au passage. Vous vouliez dire quelque chose? Allez-y. Parlez sans crainte, je suis là pour vous entendre. Oui.
Alors pourquoi ça a pris tant de temps?
Eh bien, tout simplement.
Quels sont les points de départ de la concrétisation de ce projet actuellement? Est-ce que ça passe par ces voies-là? Comment ça se manifeste?
Très bien. On m'a demandé de reprendre la question pour l'enregistrement, donc je vais la reprendre. D'accord? Vous demandez, vous m'avez dit la chose suivante. Je n'étais pas au début de la conférence. Et j'ai pu comprendre, ce qui est absolument vrai, que le projet d'Abraham était la réunification de l'humanité. Et votre question est donc pourquoi ça a pris tellement de temps? Est-ce que je me trompe sur votre question? C'est très bien. Je crois avoir compris. En fait, ben, on a un peu exposé ça. C'est que le billet... Non, mais c'est très bien. Je vous assure que même ceux qui l'ont déjà entendu veulent le réentendre. Le billet de la réalisation de ce projet... c'est la nation d'Israël. Or, une nation est sur sa terre. C'est-à-dire, pendant 2000 ans à peu près, nous avons été empêchés de réussir. Nous nous sommes repliés sur nous-mêmes, le processus de la ghettoïsation, si vous voulez, qui fait que les Juifs, jusqu'à ce jour d'ailleurs, ont une certaine réticence par rapport à l'extérieur, une certaine crainte. Nous nous sommes rendus compte, et pour un peuple persécuté et en exil, vous comprenez que c'est très important, qu'à chaque fois que des non-Juifs se sont intéressés à nous, il y a eu des catastrophes. Et ce n'est pas que le projet universel n'existait pas, il a continué à être porté dans les cœurs des Hébreux, mais il n'avait pas le substrat qui lui permettait de s'exprimer. Je voudrais à ce propos vous citer un texte d'un philosophe francophone, il s'appelait Jean-Jacques Rousseau, c'est ça, hein? Oui, un Genevois, qui disait, c'est pas loin d'ici je crois, n'est-ce pas Genève, enfin, relativement, Jean-Jacques Rousseau qui disait dans les Mille, qu'en Sorbonne, à l'époque la Sorbonne était une université catholique, enfin religieuse, il dit en Sorbonne, il ne fait aucun doute que les prophéties d'Isaïe concernant le Messie parlent de Jésus. Pour les rabbins d'Amsterdam, c'est les rabbins dont il avait entendu parler, il ne fait aucun doute que ces prophéties n'ont rien à y voir. Et donc, je pense, dit Jean-Jacques Rousseau, que je ne comprendrai les Juifs que lorsqu'ils auront un État à eux, des universités et des écoles où ils pourront s'exprimer sans crainte. C'est alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. Je pense que c'est très net. D'accord ? Et donc il y a eu cette attente, effectivement. Donc le temps est venu. Le temps est venu, donc pouvons en parler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tentatives antérieures. Je voudrais rappeler que à l'aube du christianisme, il y avait une sorte de prosélytisme, non pas pour judaïser l'humanité, mais il y avait un prosélytisme dans tout l'Empire romain, qui fait que dans les synagogues de tout l'Empire romain, il y avait une partie réservée aux non-juifs, qui venaient écouter les paroles des maîtres, venaient prier avec les juifs. Et ce sont ces communautés-là qui ont permis après la diffusion du christianisme. Parce que le christianisme se proposait effectivement comme une sorte de noachisme au départ. Vous avez qu'à lire d'ailleurs dans les épîtres de Paul, vous voyez que c'était un peu ça auquel il pensait au départ. Après, ça a été dévié pour une raison très simple. C'est quand il y a eu l'affirmation de la communauté chrétienne qu'elle venait remplacer le canal d'Israël. C'est-à-dire, de notre point de vue, c'était se substituer à nous comme étant la voie de la révélation. Et donc il y a eu ce que appelait Abraham Livni, il appelait ça une formule un peu forte, l'étouffement de la prophétie. La parole n'a pas été entendue, elle a été occultée. Vous savez que dans les cathédrales avant, on représentait la synagogue comme étant une vierge au bandeau, qui avait un bandeau sur les yeux. Mais quand on met un bandeau sur les yeux de quelqu'un, eh bien ça empêche de le voir. Et aujourd'hui, on peut enlever le bandeau. Donc, on peut effectivement parler. Alors, donc, il y a eu cette tentative, effectivement, la tentative, ce qu'on appelait à l'époque les Yirei Hachem, il y a des études qui ont été faites d'ailleurs par des universitaires là-dessus, sur la diffusion du message d'Israël dans l'Empire romain à la veille de l'apparition du christianisme. Il y a eu également le christianisme lui-même. Et puis, il y a eu après l'islam. Il y a eu, à une époque beaucoup plus proche de la nôtre, une tentative, dont vous avez peut-être entendu parler, celle d'un rabbin de Livourne. D'un rabbin de Livourne, qui était un kabbaliste, un grand maître du judaïsme, également un dayan, le rav Elia Ben Amozeg, rabbin d'origine marocaine, qui siégeait à Livourne, et qui un jour a reçu la visite d'un Français de Lyon, du nom de... C'est pas loin d'ici non plus, hein, je crois. Du nom de Aimé Pallière. Cet Aimé Pallière, qui était un homme avec une recherche spirituelle authentique, était d'origine catholique, et après avoir eu une expérience religieuse lors d'un jour de Kippour, en étant rentré par hasard dans une synagogue, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour rentrer par hasard dans une synagogue un jour de Kippour, mais enfin, ça lui est arrivé. Au moment de la dernière prière, la Nehila, qui est une apothéose, il a été frappé par ce qu'il a vu, et ça l'a bouleversé, il a décidé donc de se convertir au judaïsme, et un rabbin français l'a refusé. Il est allé en Italie pour rencontrer ce maître, le rabbin Amozeg, qui lui a dit, je ne veux pas vous convertir, vous allez devenir le grand prêtre du noachisme. Vous allez refonder cette religion oubliée, etc. Bon, pour tout vous dire, ça a été un échec total. C'est-à-dire que Aimé Pallière n'a pas vraiment suivi les instructions de son maître. Il a quand même publié de manière un peu abrégée, peut-être un peu déformée, les écrits de son maître, le livre « Israël et l'humanité ». Et il est devenu, si vous voulez, une sorte de prêche dans la synagogue libérale de Paris, dans laquelle il expliquait aux Juifs qu'ils devaient respecter le Shabbat. C'est à peu près ça qui s'est passé. Lorsqu'il était mourant, il a fait appeler un prêtre et un rabbin. Il a été enterré dans un cimetière catholique, mais on a dit le Kaddish sur sa tombe. Enfin, bref, il n'était ni là, ni là-bas. Et bien qu'il y a eu quand même un certain retentissement à son initiative, il y a eu quelques suites, mais enfin, disons de manière générale, cette tentative intéressante a échoué, à mon avis, parce qu'elle n'était pas justement branchée sur le moment du retour. Il y a de nos jours une œuvre intéressante qui a été écrite par un philosophe français d'origine catholique qui s'appelait Albert Blanc, qui par la suite s'est converti au judaïsme et est devenu Abraham Livni. Un livre important qu'il a écrit du nom du « Le retour d'Israël et l'espérance du monde ». Alors, peut-être que vous avez entendu parler de ce livre, c'est un livre que je vous recommande, publié aux éditions du Rocher, à Monaco. Tiens, c'est pas loin d'ici, encore plus proche, n'est-ce pas ? Bientôt, on va arriver à Nice.
Oui ? Je crois que le livre est là.
Ah, la Sifria, on l'a ? Ah, d'accord, c'est bon. Ce livre, d'ailleurs, a été traduit en hébreu par votre serviteur.
Ah, bon ?
Ah oui, je l'ai traduit en hébreu. Oui, il s'appelle Shiva Tzion ve... Shiva Tzion Eslamim. D'accord ? Mais ici, il n'y a pas d'acheteur pour la version hébraïque. Non.
Bon, en tout cas. Quand on va prendre la version française.
Oui. Et je voudrais vous citer.
Il n'y en a qu'un seul.
Comment ?
Aux enchères, il n'y en a qu'un seul.
Il n'y en a qu'un seul, d'accord. Bon, je voudrais quand même vous raconter une des réactions. Ce livre a causé beaucoup de réactions dans le monde à l'époque. C'était il y a quelque chose comme il y a 20 ans, 25 ans que ce livre a été publié. À l'époque, ce livre a amené énormément de réactions. Aussi bien chez des juifs que des non-juifs. Et je rappelle d'une lettre qu'Abraham Livni avait reçue d'une chrétienne qui avait lu le livre, dans lequel il y a une critique assez violente du christianisme, et dans laquelle elle lui dit, et je vais vous dire pourquoi je vous raconte cette histoire, et elle a dit, j'ai lu tout ce que vous avez écrit, et je suis entièrement d'accord, vous avez totalement raison, et pourtant, malgré tout, je reste chrétienne. Et ce n'est pas, à mon avis, par malhonnêteté intellectuelle. C'est parce qu'il y a quelque chose de très très fort dans les diversités spirituelles. C'est-à-dire, être chrétien ne veut pas dire forcément l'adhésion au dogme tel qu'il est transmis dans l'Église. Enfin, ce n'est pas mon affaire de me mêler des affaires intérieures du christianisme. Mais il y a souvent, si vous voulez, quand on essaie de prouver à quelqu'un qu'il a tort, en général, on a tort de lui prouver qu'il a tort. Pour raison très simple, c'est que quand on prouve à quelqu'un qu'il a tort, il ressent instinctivement, sans savoir pourquoi, qu'il a quand même raison. Parce qu'il y a, dans chaque discours, il y a une parcelle authentique de vérité qui alimente l'erreur, si vous voulez. Et donc, si tu me dis en quoi j'ai tort, mais tu ne m'as pas dit en quoi j'ai raison. Donc, si vous voulez, la stratégie véritable des entretiens entre spiritualité, c'est de dire à l'autre en quoi est-ce qu'il a raison, et c'est alors qu'il comprendra qu'il avait tort de penser qu'il avait raison. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est bon d'éviter ce qu'on appelle la disputation, c'est-à-dire les conflits interconfessionnels. Pour tout vous dire, je ne suis pas non plus de la veine des rencontres interconfessionnelles.
Les amitiés
judéo-chrétiennes et tout le reste. Je veux dire pourquoi ce n'est pas mon sujet, pour une raison très simple. C'est qu'on parle toujours de fraternité entre les hommes. On parle toujours du refus de la violence au nom de la religion. Il y a un repas cachère qui est offert à tout le monde, et végétarien. Et on se sépare, après avoir fait des déclarations mutuelles d'amitié et d'amour. Et le problème, c'est que ça, en général, ça ne fait rien avancer. C'est-à-dire que, en parlant toujours de ce qui nous réunit, finalement, ce qui certainement va surnager, c'est les différences. Alors qu'en vérité, il est beaucoup plus bénéfique et fructif, enfin, et
fructueux.
Fructueux, oui. Vous voyez, je vous ai dit que j'avais des problèmes de français. Ce qui est beaucoup plus fructueux, c'est... Ah, vous dites que ça fait déjà 1h30 qu'on parle ? Non, non, pas du tout. Ça fait 1h07 parce que Léo Guez a parlé avant moi. Et donc, il est beaucoup plus fructueux de parler justement des divergences. Et c'est une fois les divergences bien claires que l'on peut parler de ce qui nous réunit. Et donc, si vous voulez, je n'adhère pas. Enfin, c'est pas que je m'oppose, je n'adhère pas à ces initiatives. Mon sujet, mon projet est de parler de l'établissement du noachisme parmi les nations. Alors, il y a, si vous voulez, des projets, peut-être que si ça vous intéresse, il y a des projets que j'étais amené à formuler. Tout d'abord, c'est une question que je me pose quand je rencontre des non-juifs intéressés au judaïsme. Indépendamment de la question fondamentale, est-ce que vous êtes intéressé ou non à adhérer au noachisme, c'est est-ce qu'il y aurait une demande, une nécessité d'établir des communautés. Vous savez qu'aujourd'hui en Occident, l'individualisme est très fort. J'ai le sentiment, enfin disons, je pense assez fondé, que par exemple, aujourd'hui en France, il est presque habituel de vivre seul, de vivre dans la solitude existentielle. Et d'un autre côté, je suis persuadé qu'une vie spirituelle complète ne peut pas se faire sans l'appartenance à une communauté. Il est évident que, par exemple, pour les Juifs, c'est le mode quasi indispensable de réalisation de soi. Les Juifs ont vécu dans des communautés. Et on peut dire que tout ce qui s'est présenté aujourd'hui comme culte ou spiritualité ou religion, enfin, comme vous appellerez ça comme vous voulez, a toujours... créer une sorte de type social auquel on adhère. Alors évidemment, l'adhésion est toujours un peu contraignante, parce que l'adhésion, ça voudrait « Ah, vous allez me dire ce que je dois être ». Mais d'un autre côté, il y a l'homme est un animal social, je crois que c'est Aristote qui l'avait dit, et donc il serait intéressant de voir si des communautés noachides pourraient être fondées ou pas. De plus... il me semblerait très intéressant de créer des séminaires de, si vous voulez, d'instruction, d'enseignement du noachisme qui seraient en particulier centrés à Jérusalem. C'est-à-dire, en collaboration, d'ailleurs, je suis en discussion avec le grand rabbinat d'Israël à ce propos, de reconnaître le noachisme comme étant une des branches d'activité du judaïsme. Et il serait intéressant donc de former, de fonder ce dialogue, cet enseignement, dans des séminaires à Jérusalem. Mon idée, ce serait une semaine ou deux semaines, associées à des visites, disons, de type touristique, mais plus que touristique, disons, de racines en terre d'Israël. Et puis par la suite, donc, il pourrait y avoir une sorte de bonne parole qui serait diffusée parmi les nations. On pourrait penser, pour employer un terme peut-être que vous connaissez, à des apôtres, 12 par exemple, qui porteraient une bonne parole, ça me rappelle quelque chose, et aux nations. Et puis, éventuellement, dans les années qui viendraient, ça serait une sorte fonder une sorte de centre international à Jérusalem, qui réaliserait le projet du prophète, qui mit Tzion et Tzetora. C'est de Tzion que doit sortir la Torah. Si elle doit sortir, c'est qu'elle doit sortir vers les nations. Udvar Hashem, Yerushalayim, et la parole de Dieu de Jérusalem. Alors évidemment, ça ferait partie d'une sorte de... Ça serait un petit début de transformation des normes de pensée de l'humanité. Et je pense que c'est toujours un honneur d'être parmi les premiers participants à ce genre d'études. Oui.
J'aurais une question à ce sujet.
Oui.
Ce que j'ai pu voir, c'est que l'identité d'Israël était un petit peu réfractaire à toute forme d'impérialisme religieux.
Oui, absolument.
Forme de clone, où on serait tous les mêmes, tous unis avec la même structure. Est-ce que dans le projet noachique, on ne risque pas de tomber, je connais un peu la réponse, mais je voudrais qu'on en parle,
oui.
De tomber dans une forme, non pas de judaïsation, mais quand même, c'est une forme de prosélytisme, universel pour retomber dans l'erreur des grands empires religieux.
Oui.
Avec le même message, une seule religion pour l'humanité.
Génial. Votre réponse ?
Ma réponse.
Ah ben oui, bah, posez les questions, il faut les répondre.
Pas ma réponse, mais mon sentiment, c'est que les Noirs, ce n'est pas une religion universelle.
Absolument.
Sinon, on retomberait dans le même cliché. C'est que chaque tradition resterait, un peu comme à Babel, chaque famille avait une langue, donc une culture. Donc il n'y a pas de judaïsation ou de noirisation globale, c'est que chacun reste ce qu'il est. Il y aurait une forme de tronc commun universel, mais chacun reste ce qu'il est. Et que je dirais même que les traditions existantes sont peut-être aussi porteurs de ces valeurs universelles et qu'il n'y aurait pas de transformation énorme. Il y a une simple reconnaissance d'un tronc commun qui sont donc les lois noiries, mais qui ne sont pas donc... une universalisation type...
Très bien. Je voudrais dire quelque chose à ce propos. Je pense que, quand on se pose ce genre de questions, il faut s'adresser au destinataire. C'est-à-dire, on peut discuter entre nous de quelle forme le noachisme doit prendre, une forme de religion, impérialisme spirituel, etc., ou autre. Ce qu'il faut voir, c'est ce que les nations attendent de nous. Et là, c'est pour ça que je pense que rien ne remplace l'écoute de ce qui se dit chez les nations. Et de même que nous attendons que les nations nous écoutent, eh ben, il faut également que nous les écoutions. J'ai pu connaître un personnage assez intéressant, justement, qui venait des nations. Il était également d'origine française. Vous avez certainement entendu parler de Jean Vassal. Jean Vassal était un Français qui se définissait comme noachide. Et il portait un drôle de nom de famille, quand même. Être noachide, se dire vassal. En tout cas, il a écrit un livre que vous avez certainement... Vous l'avez ? Non ? Vous n'avez pas ce livre ?
Qui s'appelle ?
Les Églises Diaspora d'Israël.
Ah, je l'ai, oui.
Ah ben voilà. Bon. Eh bien, oui. Aux éditions Albin Michel. Bon. L'idée, j'étais assez très surpris de voir un non-juif diffuser un enseignement juif, d'ailleurs. Et avec des propositions concrètes qu'il adressait à pas moins que le pape, n'est-ce pas ? Il proposait au pape de transformer le dogme chrétien avec quelques petites modifications mineures, telles que par exemple renoncer à la Trinité, à l'incarnation, au sacrement, à l'abandon d'Israël, et puis, bon ça c'est renoncer, à quoi renoncer ? Et la proposition positive, c'était que l'Église se considère comme les délégués de la parole d'Israël dans le monde. Bon, intéressant. Alors, si des transformations... Je ne crois pas que le pape ait réagi positivement à cette idée-là.
Pas donné suite.
Non, je ne crois pas. Je crois pas. Enfin, il faudrait lui demander. D'accord ?
Mais enfin,
comment ? C'était Jean-Paul II. Jean-Paul II. Et... mais enfin... ce qui, m'intéresse dans cette proposition de Jean Vassal, c'est que ça vient de l'intérieur des spiritualités existantes et non pas imposé par quelqu'un de l'extérieur. Alors évidemment, si des non-juifs viennent vous poser des questions, il faut répondre. C'est comme par exemple justement ce bourguignon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc je pense qu'il est important également de ne pas toujours avoir trop peur. Tel que je connais Léo Gay, c'est quelqu'un qui a une horreur instinctive, peut-être justifiée, des institutions, de l'institutionnalisme, n'est-ce pas ? Bon, mais et ça, c'est souvent justifié, mais ça peut parfois être une exigence de certaines sociétés. Par exemple, mes contacts avec des noachides d'Afrique du Sud m'ont fait comprendre que là-bas, c'est extrêmement structuré, c'est très différent de l'individualisme français, par exemple. Et donc, je pense que chaque nation... Chaque société a sa manière à elle d'appréhender le noachisme, et parce qu'effectivement, il n'est pas, le projet n'est pas de faire de la judaïsation, du prosélytisme. Il s'agit de voir qu'est-ce que, dans le dialogue entre Israël et les nations, peut amener à la sanctification des sociétés. Oui ?
J'ai une autre
remarque.
Non, pas une autre remarque. Oui. Un autre exemple de question qui vient des nations. et que je trouve qu'elle est très forte, puisqu'on a la photo de notre maître d'ailleurs, Ashkenazi, avec le Dalai Lama. Le Dalai Lama est parti voir le Rav Ashkenazi parce qu'il avait besoin d'une parole. Alors, qu'est-ce qu'a pu demander le Dalai Lama au Rav Ashkenazi ?
D'accord.
Il vient dire au Rav Ashkenazi : vous avez l'expérience de l'exil et de la délivrance. Vous avez dans votre histoire une expérience, comment pouvoir vivre en exil et garder votre patrimoine. Donc, il a été demandé un message, comment, après justement l'exil des bouddhistes, est-ce possible pour ces bouddhistes, donc ils ne venaient pas pour avoir une...
Tibétains.
Comment pouvoir garder leur tradition dans l'exil. Et il est venu demander en Israël, au Rav Ashkenazi...
Non, c'était en France. La rencontre s'est faite en France.
Ah, c'est faite en France. Oui. En tout cas, nous, on a la photo. En tout cas, il est venu, il a vu le Rav Ashkenazi pour poser cette question. Donc la question, elle était aussi qu'on a une expérience humaine de la survie, quelque part, traditionnelle dans l'exil. Comment faire pour garder cette tradition en exil ? Donc, je crois qu'il y a différentes questions
Vous savez quelle était la réponse du rabbin Ashkenazi ?
Ah, ça, je ne connais pas, non. Ah, ben, j'ai juste la photo.
Non, c'est ça, non, le Dalai Lama a demandé au rabbin Ashkenazi, effectivement, vous sortez de l'exil, et nous, les Tibétains, nous commençons l'exil, comment est-ce qu'on fait pour tenir le coup ? La deuxième question qu'il a demandé, qu'est-ce que vous savez sur le secret de l'âme humaine ? Oui. Réponse de Manitou, c'était, mais enfin, grand précieux, c'est comme ça qu'on dit, non ? Vous pouvez, oui, il y a sur Terre des milliards d'individus qui ont des grandes civilisations, pourquoi est-ce que vous vous adressez à nous qui sommes un peuple si petit ?
C'est intéressant.
Oui. Et la réponse du Dalai Lama était, ah, si vous dites ça, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. D'accord ? Je sais que le Dalai Lama est très intéressé par le judaïsme, qu'il a une sorte de fascination des lettres hébraïques, ça l'intéresse beaucoup. Et bon, en tout cas, pas toutes les rencontres amènent à des bouleversements universels, mais il est intéressant de voir que quelqu'un d'aussi éloigné par sa civilisation d'Israël s'est intéressé à Israël, et ce n'est pas sans être en rapport avec les événements que nous vivons nationalement aujourd'hui. Il y aura évidemment encore, je pense, des questions de votre part.
La deuxième réponse,
oui,
pour l'âme.
Ah, j'en sais rien. Je ne sais pas.
Dalai Lama pose la question sur l'âme.
Attendez une petite seconde. Il y a, pour ceux qui sont intéressés, parce que nous pensons effectivement développer ce genre d'activité à Jérusalem, des activités de rencontre, et par la suite peut-être même de formation, si vous voulez, j'irais presque dire de leadership parmi les nations, qui viendraient à l'écoute d'Israël. Pour pouvoir se faire une idée de ce qui se passe dans le monde, nous avons ici amené des formulaires avec des questionnaires qui n'engagent à rien. Si ça vous intéresse de laisser, de répondre à ces questionnaires, ça pourra être utile pour nous. Mais évidemment, il n'y a pas ici de contraintes, mais ça me ferait extrêmement plaisir. À part ça, puisque j'ai fait cette remarque technique, alors nous allons passer à votre question là-bas. Quelqu'un avait levé le doigt, je n'ai pas pu voir qui c'était. Oui.
Je ne sais pas si c'est une question.
Allez-y.
J'ai écouté une réflexion. J'ai entendu M. Guèze dire, qui venait de nous dire là, tout à l'heure, il avait une idée sur... d'après ce que j'ai compris, c'est un peu un genre de communisme, un universalisme. Mais si jamais on arrive à ce genre de religion, enfin pas de religion, mais de ce qu'il disait tout à l'heure,
oui.
On n'annulerait pas alors le premier des commandements, quoi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tout le monde.
Votre question porte sa réponse.
En fait, excusez-moi, je suis un peu émue.
C'est très bien.
Je reviendrai peut-être plus tard.
Non, je voudrais simplement vous dire une petite remarque. Votre question est basée sur, à mon avis, une incompréhension dès le départ. Ce n'est pas de l'œcuménisme. Ce dont nous parlons ici n'est pas de l'œcuménisme, ni de l'humanisme. Toutes ces choses sont respectables, mais ce n'est pas le sujet dont je parle. Ce dont je parle ici, quand on parle du noachisme, c'est justement quelque chose qui dépasse l'œcuménisme. Parce que l'œcuménisme...
Je ne parlais pas du noachisme.
Oui.
Je faisais juste une réflexion,
oui,
parce que j'avais compris de ce que disait M. Guèze,
oui,
par rapport à la pensée qu'il avait eue,
oui,
quand il disait... ne serait-il pas...
Il a eu peur d'un impérialisme spirituel.
Voilà.
Voilà.
Alors, si on en arrivait là, je me disais, n'annulerait-on pas le premier des commandements?
Bah, vous savez, il y a tout un problème. Quelque chose de très surprenant qu'il y a dans les lois noachides, c'est que le premier des commandements des sept lois, c'est de ne pas pratiquer l'idolâtrie, donc le refus du paganisme, mais il n'y a pas de commandement positif de croire en Dieu, alors que ça fait partie des 613 commandements du judaïsme. Le premier des 613 commandements, tel qu'il s'est formulé par exemple par Maïmonide, c'est de croire en Dieu. Deuxième commandement, de ne pas adorer d'autres dieux. Eh bien, dans les sept lois noachides, on commence par le négatif. C'est justement probablement pour éviter de rentrer dans des définitions positives. Parce que dès que, dans l'humanité, on tente de donner des définitions positives du créateur du monde, de la relation envers ce créateur, on glisse très rapidement dans le paganisme. Je voudrais vous citer un texte assez surprenant du Talmud, qui dit « Kol ha-kofer ba'avoda zara nikra yehudi »« Celui qui nie l'idolâtrie est appelé juif. » Ça ne veut pas dire qu'il est juif, mais il est appelé juif. C'est comme si le Talmud voulait dire que l'athéisme serait la forme supérieure de la foi parmi les nations. Je voudrais te rappeler à ce propos, ça fait beaucoup de bruit à l'époque, ce que disait Jean-Paul Sartre avant son décès. Jean-Paul Sartre, comme vous le savez, était un existentialiste athée, qui à la fin de sa vie a dit « Le seul espoir qui reste, c'est le monothéisme d'Israël. » Et il ajoutait, mais il n'avait pas cessé lui-même de se sentir athée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, logiquement parlant, a l'air absurde, mais existentiellement parlant, est tout à fait possible d'avoir une approche existentielle athée, parce qu'on sait que l'idée de Dieu n'est compréhensible qu'au sein d'Israël. Voyez-vous ? C'est-à-dire, pour vraiment savoir qui est le créateur du monde, il faut l'entendre. Quand on ne l'entend pas, il ne veut pas en parler. Et donc, vous avez tout à fait raison. Les différents cultes qui sont aujourd'hui répandus parmi les nations sont emprunts, effectivement, de paganisme, mais ce n'est pas toujours disqualifiable aux yeux, si vous voulez, de la loi juive. La loi juive est prête à admettre, hein, sous des formes variées ou parfois qui ont besoin d'être plus ou moins corrigées, mais enfin ça existe quand même, une sorte de variété d'approche de la connaissance de Dieu. Et parce que la manière dont moi j'aborde mon Créateur est différente de la manière dont mon prochain l'aborde. Et donc ce que l'on appelle parfois Avoda Zara, le culte étranger, peut vouloir dire le culte de Dieu fait par un étranger. Avoda Tachem Zara. Alors, il y aurait effectivement beaucoup de précisions à ajouter à cette remarque d'ordre général, mais elle existe quand même. Oui, allez-y.
Une petite remarque, Bakounine, le célèbre anarchiste, disait « Appelez Dieu camarade vitamine ».
Camarade comment ?
Camarade vitamine.
Camarade vitamine. Oui, ça c'est très fort. C'est-à-dire qu'il est très important de se débarrasser de cette idée que la foi en Dieu est une nécessité de l'âme. C'est-à-dire, souvent, j'ai lu récemment un fascicule publié par deux professeurs d'université en Espagne, qui étaient en réaction au programme de l'éducation nationale en Espagne. Vous savez que dans l'éducation nationale en Espagne, on a introduit dans les cycles des lycées soit des études religieuses, contrairement donc à la laïcité, soit des études d'histoire de la religion, ce qui revenait à peu près au même. Alors, les deux professeurs athéistes, révoltés, ont écrit une proposition de troisième trajectoire, qui serait cours accéléré d'athéisme. Et c'est très intéressant parce que j'ai lu entièrement ce fascicule auquel j'ai totalement adhéré. Il y a là-bas un dialogue entre un croyant et un athée. Évidemment, le croyant est ridiculisé. Et là-bas, le croyant, à un moment, s'insurge et dit « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Alors l'athée lui dit, ce n'est pas la peine, ça a déjà été fait. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui choque beaucoup la conscience hébraïque quand on parle d'un Dieu nécessaire. C'est que Dieu n'est pas nécessaire, sur le plan logique. Dieu s'est imposé par sa parole aux enfants d'Israël, non pas parce qu'on attendait qu'il nous parle, mais parce que c'est lui qui l'a voulu. Et c'est très important de comprendre ça. Une petite histoire à ce propos, ça me revient. il y avait un empereur français d'origine corse. C'est pas loin d'ici, la Corse. On est passé déjà au sud. S'appelait...
On est au cœur du monde, ici. Quoi.
Oui, exactement. Oui. Il y avait un empereur français, il s'appelait, je crois, Napoléon, Bonaparte. Et une fois, il y avait le célèbre physicien Laplace qui avait fait une conférence devant l'empereur pour lui expliquer son système cosmogonique, comment est-ce que le système solaire avait été formé, devant la cour impériale. Et Napoléon l'écoute et il dit, mais après avoir bien entendu toutes les explications, mais où est-ce que vous mettez Dieu dans tout ça? Et Laplace répond, « Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. » C'est-à-dire que l'idée que Dieu serait une nécessité scientifique ou logique ou spéculative est très étrangère, je pense, n'est pas vraie. En tout cas, c'est étranger à la foi juive. Il n'y a pas de foi en Dieu. Nous ne savons pas si Dieu existe, mais nous savons qu'il parle. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il se révèle. Et c'est parce qu'il se révèle que nous avons quelque chose à entendre de lui, que nous avons peut-être quelque chose à lui dire. C'est très différent, voyez-vous. Allez-y.
Certains parmi les catholiques se posent aussi la question de savoir si Jésus a vraiment voulu cette séparation du monde juif. Il y a encore le dialogue entre Pierre et Paul.
Oui, absolument. Bon, ça c'est tout le problème du le paulinisme, et c'est ça le vrai, c'est ça le christianisme authentique. Est-ce que le fondateur, disons plus précisément, est-ce que la personne de Jésus était aurait voulu le christianisme ou pas, ça c'est un problème intérieur au christianisme, je ne vais pas m'en mêler quand même. Ce qui est évident, c'est que même la doctrine de Jésus avant le paulinisme était déjà étrangère à la tradition d'Israël. Quoi qu'en dise le professeur David Flusser dans son livre « Jésus et Israël », je suis de l'opinion qui considère que déjà il y avait un écart par rapport à la tradition pharisaïque en tout cas, et même si ce n'était pas... même si Jésus n'était pas chrétien. Oui ?
Une petite précision. Aimé Palière, celui qui a rencontré le rabbin de Livourne,
oui.
C'était à quelle époque ?
C'était dans les dernières années du 19e siècle. Oui. Ça devait être vers 1885, quelque chose de ce genre. Mais enfin, vous trouverez certainement beaucoup d'informations sur lui. Et sur lui, il y avait un de ses élèves italiens, il s'appelait Dante Lattès. Il avait un élève français du nom de Josué Jehuda. Enfin, donc, il y aurait beaucoup de choses autour de lui. Il a écrit un livre, Le Sanctuaire Inconnu, si ça vous intéresse.
Dans ces séminaires d'enseignement, vous toléreriez donc des athées fidèles comme Comte Sponville qui...
Écoutez, les athées sont des personnages très intéressants, justement, parce qu'ils sont capables de faire de table rase de beaucoup de choses. J'ai rencontré hier à Rotterdam un athée noachid. C'était assez surprenant, mais enfin, c'est comme ça. Oui, qui croit en la Torah. Bon, il y a des tas de manières de formuler sa manière de vivre. C'est très,
je vais vous raconter une anecdote d'un athée avec justement le rav Ashkenazi qui voulait se marier et qui demandait au rav de le marier. Et il lui dit, est-ce que tu acceptes de me marier, bien que je sois athée? Moi, je ne crois pas en Dieu. Il dit, c'est pas grave. Le principal, c'est que Dieu croit en toi.
Alors, de Mincha, l'athée, fila. Oui.
Vous avez d'autres questions?
Je crois que l'entretien, disons, a été... on a fait à peu près un parcours partiel, évidemment. Ça serait intéressant pour moi de vous rencontrer à d'autres occasions. Allez, ah oui, mais madame a encore des questions. Vous tolérez, n'est-ce pas? Ou bien vous êtes fatigué?
Oui.
Oui.
Monsieur le grand rabbin va nous quitter.
Moi, je vais quitter parce que je vous laisserai. En tout cas,
c'est un plaisir de vous rencontrer.
C'est un grand plaisir. Nous, on restera en contact.
Donc, on aura l'occasion de demander au grand rabbin de nous venir nous faire un peu de...
Portez la bonne parole.
On le sait. Nous avons aussi le Rav Hanoun qui est spécialiste des lois des Noirs.
Ça ne dérange pas.
Qui s'intéresse à ça.
Oui. Alors, madame, vous pouvez...
Non, il y a une question qui est tout à fait évidente et que vous avez jugée probablement banale, voire déplacée. N'y a-t-il pas le risque pour ces futures ou des existantes communautés noachides d'être soupçonnées de prosélytisme sioniste, tenu compte de la situation politique actuelle et de tout ce que ça suscite en Occident parmi les non-juifs et de toutes les problématiques que même pour un judéophile, ne sont pas de simples résolutions. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Donc,
écoutez,
est-ce qu'il n'y a pas ce risque un petit peu de... Voilà,
d'être considéré comme des propagandistes?
Il y a une confusion, si vous voulez, entre l'idée non acquise d'une diffusion d'une sagesse universelle, d'une parole universelle,
Ça ne sera pas soupçonné parce que ça sera comme ça. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse réellement adhérer à la parole d'Israël sans solidarité avec l'identité nationale d'Israël. Alors, on peut ne pas être d'accord avec tel ou tel point de politique de tel ou tel gouvernement israélien. Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec certains points de la politique, peut-être pas les mêmes que les vôtres. Et en tout cas, il y a... Pour que la parole d'Israël ne soit pas déformée, il faut certainement une adhésion, en tout cas de solidarité avec ce peuple qui est le porteur de cette parole. Parce que Israël n'est pas une religion. Puisqu'on a parlé tout à l'heure justement de Jésus, ce qui a séparé au départ Jésus d'Israël, c'était justement ce point-là. Quand Jésus est allé voir les rabbins pour leur dire « Vous attendez que le fils de David vienne vous sauver de la domination des Romains ?» Et moi, je suis venu m'occuper des âmes. Et c'est justement, c'est-à-dire c'était le refus d'accepter Israël comme étant le porteur, le réceptacle de cette parole. Et donc, je pense que c'est presque artificiel d'essayer de séparer le judaïsme du sionisme. En tout cas, c'est ma position à moi. Je pense que, comme d'habitude, il y aura certainement des gens qui ne seront pas d'accord. Mais enfin, de mon point de vue, je pense que c'est fondamental. Donc, ils ne seront pas soupçonnés, ils le seront.
D'accord. Oui. La réponse est très claire.
Donc, pour répondre à cette question-là, quand on parle de la construction du temple, qui semblerait être une institution juive, en tout cas, c'est écrit que c'est une lumière pour les nations. C'est-à-dire que l'idée de la construction du temple, ce n'est pas pour arriver à faire une très très grande synagogue. C'est que commence justement cette lumière pour les nations. Donc c'est vrai qu'il y a une centralité par rapport à la terre d'Israël. Et je pense que d'après, la Bible, puisqu'on parle de cette terre, de ça, il y a une reconnaissance aussi, à voir qu'il y a quelque chose qui se passe là. La preuve, c'est que dès qu'il y a une petite chose qui bouge en Israël, on va en parler, quoi. On va tuer des milliers, des millions de personnes ailleurs, certainement on entend parler, quoi.
Donc il y a quelque chose.
Il y a quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, bon, je vous remercie pour encore une fois pour votre présence. Vous avez donc des papiers du RAV, si vous voulez donc éventuellement répondre à son
carte de visite aussi.
Vous avez des cartes de visite ici. On fera d'autres échanges. Moi, je pense que le gouvernement d'Israël va aussi avoir un peu plus d'informations sur ce projet-là. On fera sûrement d'autres échanges, peut-être pas les mêmes, que vous avez entendu, on va essayer d'avancer un petit peu dans ce projet-là. En tout cas, ici, ça sera aussi un endroit où on peut vous accueillir pour pouvoir débattre et étudier ces choses-là. On le fait déjà, de toute façon, sur des thèmes bien particuliers, puisqu'on a parlé des lettres hébraïques. On le fait sur les lettres hébraïques, mais on peut le faire aussi sur votre site. C'est aussi important que vous venez d'entendre. Hein. Donc, il y a cette possibilité de partage. C'est vrai que j'adhère aussi à ce projet éventuellement qui peut nous aider à mieux cerner ce projet de séminaire, de voyage, d'études, de visites en même temps. On a eu cette idée l'année dernière, on n'a pas pu se faire parce que pour des questions, on va dire, techniques. En tout cas, on va relancer ce projet de voyage en Israël et de rencontrer donc, les rabbins qui s'intéressent à cette question-là. Et puis, vous êtes... Le tout, c'est qu'on puisse avoir des contacts avec vous pour pouvoir avancer dans ce projet-là. Voilà, donc, en tout cas, je vous remercie.
Je vous remercie aussi. Je remercie Léonguès de l'accueil qu'il a bien voulu m'accorder. C'est toujours enrichissant de rencontrer d'autres personnes.
Une question technique aussi idiote, peut-être, mais bon, c'est une association. On a mis une petite canette pour les personnes qui veulent participer à nos frais. On a quand même des frais à assumer. Donc, c'est une entrée libre, mais la sortie n'est pas...